me balade chez Renault, chez Airbus, chez ArcelorMittal, etc. Mais c'est dingue de voir la révolution qui se passe à l'intérieur de ces environnements, parce que en fait toutes ces entreprises sont en train de s'adapter, de se digitaliser et de transformer leur métier. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe? C'est soit tu l'utilises et t'es plus compétitif que les autres, soit tu l'utilises pas et t'es derrière. Franchement, la 6G, alors oubliez, parce que c'est le début des travaux de spécification de ce que ça va être. Il y en a pour 10 ans.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Après des études en marketing à l'ESCP, il rejoint Danone, Singapour-Malaisie, en tant que chef de zone. Il oscille ensuite entre direction marketing et direction commerciale de grandes marques, notamment télécom, telles que NN6, Xway, j'espère que je ne pas trop mâcher, Orange ou Bluegreen. En 2021, il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et crée Eagle Pay, et par la suite lance le startup studio Raisin.ai, avant de s'engager pleinement dans Firecell, un ensemble de réseaux privés 4G, 5G open source pour l'industrie 4.0. Salut Olivier, comment
Salut.
Vas-tu?
Ouais, super, content d'être là.
On est hyper content de t'accueillir à ce micro. D'ailleurs, Firecell, ça fait partie de Raisin AI, c'est ça?
Alors en fait, on l'a créé au départ dans le cadre du startup studio Raisin AI, mais en réalité, on a vu tout de suite une pépite et un potentiel énorme dans Firecell. Donc, on a décidé de mettre en pause le startup studio pour se concentrer à fond sur Firecell.
Ouais, il me semblait que j'avais vu quelque chose comme ça.
Il y a pas mal de mots barbares quand même dans ce que j'ai dit. Je m'en suis rendu compte en le lisant. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est un réseau privé 4G, 5G? Ça correspond à quoi?
Ouais, effectivement, ça c'est un peu barbare pour monsieur tout le monde. En fait, tout le monde connaît les réseaux publics, les réseaux télécoms publics, hein, donc en France, Orange, SFR, Bouygues, etc. Ces réseaux, ils utilisent des fréquences qui sont allouées par le régulateur, hein, par le gouvernement, puisqu'en fait, le spectre qui est disponible, c'est la propriété de l'État. Depuis à peu près 3 ans, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, puis en Asie, les gouvernements ont décidé de libéraliser une partie de ce spectre, donc des fréquences, pour les allouer aux entreprises. Donc ça veut dire qu'une entreprise aujourd'hui, elle a la possibilité de déployer son propre réseau, d'où l'idée de réseau privé, pour couvrir ses propres besoins de connectivité au sein d'une usine, d'un entrepôt, un port, un aéroport, une mine, etc. Donc ça veut dire que ce sont des réseaux qui sont indépendants des réseaux publics, qui vont vraiment être fabriqués sur mesure pour les besoins de l'entreprise et qui sont plutôt tournés vers des usages machine to machine, c'est-à-dire qu'on va connecter des équipements, des véhicules, des machines, des robots, des tablettes.
À quoi ça sert de connecter tout ça?
Alors, en fait, ce que cherchent les entreprises aujourd'hui, c'est à se digitaliser. En fait, il y a vraiment une tendance de fond qui est une transformation digitale des métiers des entreprises pour être plus efficace essentiellement, pour pouvoir piloter de manière à distance leurs propres opérations, pour automatiser un certain nombre de process, pour baisser leurs coûts aussi, hein, parce qu'en fait, quand on automatise, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir faire tourner une usine la nuit ou pendant les week-ends ou les vacances. Et in fine, gagner en compétitivité. Et en fait, si je reviens au point de départ, c'est ça que les gouvernements ont identifié très tôt. C'est pour ça qu'ils ont libéralisé une partie du spectre pour les entreprises. C'est pour faire en sorte que les entreprises soient plus compétitives, restent en France. Alors bien entendu, chaque pays fait la même chose, hein, restent locales et puissent être plus performantes au niveau mondial.
D'accord. Et vous êtes open source, c'est-à-dire dans quelle mesure, dans quel sens?
Alors, nous, on est utilisateur d'un code open source qui s'appelle l'Open Air Interface.
D'accord.
On va l'appeler OAI, son petit nom, qui, en fait, a été développé par un labo de recherche français qui s'appelle Eurecom, qui est basé à Sophia Antipolis. Et pour nous, ça a été un moyen d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'on a vu l'open source d'abord comme un moyen de casser le modèle black box des gros équipementiers que sont Nokia et Ericsson. Et aussi d'aller plus vite, puisque ça veut dire qu'il y a toute une partie du logiciel qu'on n'a pas eu à redévelopper, Et ça a plusieurs avantages. Alors les gens ne le savent pas, mais la 5G, elle existe et elle fonctionne. Votre téléphone, il fonctionne sur tous les réseaux de la planète.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'est un standard. Ce standard...
Comme pour l'aviation, où ils ont des ondes standards, etc.
Exactement. Mmh. Ce standard, il s'appelle 3GPP. Il a été, il est construit au fur et à mesure par les plus grandes sociétés télécom du monde. Il y en a plusieurs milliers. Et c'est elles qui ont fabriqué le standard de la 3G, de la 4G, de la 5G et qui aujourd'hui commencent déjà à travailler sur le futur réseau 6G. Bon, ça viendra dans 10 ans. Et donc, ce standard, son rôle principal, c'est vraiment d'assurer une interopérabilité de nos téléphones, de nos laptops, de je
GPS,
sais pas quoi,
machin.
Voilà, dans le monde entier, qu'on soit sur un réseau Vodafone en Angleterre, AT&T aux États-Unis ou Orange en France. Voilà, c'est ça.
C'est quoi la différence entre le réseau 2G, 3G, 4G, 5G, 6G? Si j'ai bientôt, un jour.
Alors, c'est surtout les performances. Moi, je vais pas aller dans la technique, hein, mais... À chaque génération, ce fameux consortium, hein, ce standard 3GPP, a cherché continuellement à améliorer les performances de communication.
À transporter le plus d'informations possible, le plus vite possible.
Alors, voilà, il y a plusieurs choses. Hein. Les améliorations, elles sont d'abord en termes de couverture. C'est-à-dire, finalement, utiliser des antennes qui sont de plus en plus efficientes. Ensuite, c'est effectivement transporter de plus en plus de données en volumétrie le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vous vous souvenez, hein, les premiers mobiles qu'on avait il y a, je sais pas, 15 ans.
Le 4310.
Ouais, péniblement, on envoyait des petites photos d'un mobile à l'autre. Aujourd'hui, on est capable de faire du streaming en live sur son mobile. Hein. Et demain, donc la 5G, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la 5G, elle ne révolutionne pas la vie des particuliers, hein, de toi et moi. En fait, ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait dès le départ avec en ligne de mire le business des entreprises.
Et pourquoi les entreprises, elles ont besoin que ça aille plus vite? Elles ont besoin de passer à la 5G et pas à la 4G?
Alors, la 4G fonctionne déjà pas mal. En réalité, il y a déjà des entreprises qui ont déployé des réseaux 4G, notamment dans des mines, pour connecter des véhicules. Alors c'est plus efficace que le Wi-Fi parce que ça a une plus grande portée et une plus grande bande passante. Mais la 5G va encore plus loin. Alors elle va encore plus loin en termes de débit, elle va encore plus loin en termes de latence, c'est-à-dire qu'on arrive à des degrés de latence qui sont très faibles, qui vont permettre d'ouvrir des cas d'usage qui sont critiques, qui ne fonctionnaient pas si on n'avait pas ce degré de latence. Je vous donne un exemple, piloter un robot à une certaine vitesse qui va se balader dans une usine, bon, bah, jusqu'à présent c'était pas possible sans la 5G. Et puis le dernier élément qui est important, intéressant, c'est que ces standards mobiles, ils permettent la mobilité lorsque son device se balade entre une antenne et une autre. Hein. C'est pour ça que quand vous êtes à, je sais pas, 100 km/h sur une autoroute, vous êtes au téléphone, bah, tu peux avoir une conversation pendant une heure durant sans coupure.
Ouais.
En fait, ça, c'est possible parce qu'il y a cette capacité de passer un appel d'une antenne relais à une autre antenne relais sans couture. Et donc ça, c'est une grosse différence, enfin, c'est un gros avantage de ces standards.
Tu dirais que c'est vraiment un enjeu de compétitivité aujourd'hui dans l'industrie d'être à jour sur ces générations mobiles ?
Ouais, à fond, vraiment.
Sur quels aspects ? Même, il y a des industries peut-être où c'est plus marqué que d'autres ?
Alors nous, on le voit effectivement, là où il y a beaucoup de demandes, c'est dans la logistique, notamment ouais. L'intralogistique, dans l'industrie manufacturière, notamment automobile et aéronautique. Et oui, c'est un enjeu stratégique parce qu'on a même des entreprises qui nous disent, écoutez, aujourd'hui, on a compris que si on se ratait dans le déploiement de notre infrastructure de communication, c'est toute notre roadmap d'innovation que l'on mettait en danger. Parce que ça devient un socle sur lequel on va construire du monitoring à distance, on va comprendre ce qui se passe dans les flux de produits dans son usine, on va être capable de commander beaucoup plus vite, on va être capable de résoudre des problèmes sur des machines à distance, on va réduire ses coûts. Enfin, il y a vraiment un enjeu économique pour les entreprises qui est super fort.
Et à ce sujet-là, alors on va pas aller trop dans la technique, mais Est-ce que c'est sécurisé aujourd'hui, un réseau comme ça, dans le sens où on se rend compte que pour certaines entreprises, même sur des domaines assez critiques, il y a des enjeux de sécurité énormes, de dire déjà d'avoir une connexion Internet qui tient tout le temps, et en plus sur laquelle on peut pas interférer sans être interne à l'entreprise, ça donne quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose où on peut être sûr?
Alors, c'est un point critique, hein. Toutes les entreprises le remontent, parce qu'en fait, les enjeux, plus une entreprise se digitalise, plus elle offre finalement une surface d'attaque.
Tout à fait. Plus il y a de points, plus on peut faire mal.
Voilà. Et donc, jusqu'à présent, ce qui est un peu rigolo, c'est que tout le monde avait du Wi-Fi. Le Wi-Fi, il suffit de s'échanger un petit code et n'importe qui peut rentrer dans le réseau. Donc, en fait, c'était des passoires, mais personne ne se posait vraiment la question et pas trop de problèmes. À partir du moment où les entreprises commencent à connecter le cœur de leur réacteur hein, et de leur activité, ça devient un problème qu'il faut absolument regarder avec précision. Et donc, l'intérêt des technologies 4G, 5G, c'est que ce sont des technologies qui sont encryptées de bout en bout, notamment grâce à la carte SIM. C'est-à-dire que on ne peut pas rentrer sur le réseau si on n'a pas l'équivalent de la carte SIM. Donc, il faut que...
Ça fonctionne avec les eSIM ?
Ça fonctionne avec l'eSIM, oui, okay. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'il faut que toi, en tant qu'utilisateur ou un device, il ait l'équivalent de la cryptologie qui est sur la carte SIM pour pouvoir rentrer dans le réseau. Donc déjà, il y a un niveau de sécurité qui est beaucoup plus fort. Ensuite, cette histoire de réseau privé fait qu'il faut l'imaginer comme une bulle. L'entreprise peut décider que son usine, en fait, toutes les données qui vont connecter au sein de son usine ou son entrepôt vont rester locales. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème d'étanchéité. C'est elle qui va décider de faire sortir et rentrer juste une partie de ces informations.
Ça remplace le Wi-Fi ?
Alors, ça ne le remplace pas, ça le complète.
Ok, donc il faut quand même avoir le Wi-Fi dans les bureaux ?
Très franchement, le Wi-Fi, il fonctionne parfaitement pour les bureaux, hein, parce que d'abord, on
mais
est statique.
Mais ce n'est pas doublon.
Ce n'est pas les mêmes applications, en fait, c'est ça ?
Oui, exactement. Ce n'est pas les mêmes applications. Donc, le Wi-Fi, c'est idéal pour connecter un laptop, un mobile, quand on est assez peu nombreux et quand on est statique. Quand on parle de connecter des machines, de connecter des caméras 5G, de connecter des robots, là, le Wi-Fi, il est à la peine. Donc nous, tous les jours, on a des entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent, j'ai étendu mon réseau Wi-Fi dans mon usine ou dans mon entrepôt, et en fait, ça ne marche pas. Le plus drôle, c'est des entreprises de picking qui nous disent, le Wi-Fi tombe en rade deux fois par jour, et mes ouvriers, ils perdent 30 minutes par jour. Ou le Wi-Fi ne passe pas au travers de palettes de pastèques.
Ah ouais.
Il y a des éléments comme ça qui sont liés intrinsèquement à la techno qui font que ça ne fonctionne pas lorsqu'on le pousse dans un environnement industriel. Alors, il faut aussi comprendre qu'un environnement industriel, c'est fait de quoi ? C'est des infrastructures, la plupart du temps, en acier, avec plein de machines au milieu, ouais. Avec énormément d'interférences.
C'est pas les mêmes bandes passantes, j'imagine.
Et tout ça marche très mal en Wi-Fi. Donc les gens nous disent, mon Wi-Fi, j'ai ce qu'on appelle des blind spots, donc des points noirs à certains endroits de mon entrepôt. Je ne sais pas le corriger, j'y arrive pas. Aidez-moi.
Comment on déploie aujourd'hui un réseau 5G et d'autant plus dans une entreprise?
Alors c'est le même principe qu'un gros réseau public, hein, c'est-à-dire que tu déploies des serveurs, alors qui peuvent être dans l'usine ou dans un data center ou dans le cloud. Et puis, tu vas déployer ce qu'on appelle des radios et des antennes qui vont, elles, être sur site, puisque c'est elles qui vont créer le réseau. On va ensuite aller demander la fameuse fréquence au régulateur, donc en France, à l'ARCEP, et on va créer ex nihilo un petit réseau.
Voilà. Chaque entreprise a des fréquences, enfin chaque réseau a une fréquence différente.
C'est le même réseau sur tout le territoire.
D'accord.
Mais par contre, tu vas pouvoir réserver ta fréquence pour ton entrepôt qui est à tel endroit.
D'accord.
C'est en fonction de la localisation.
Ça se passe comme pour les ondes radio.
Ouais.
Pour que ce soit un peu plus palpable et sans rentrer trop dans le détail de confidentialité, est-ce que par exemple tu aurais un cas d'usage d'une entreprise par exemple pour nous expliquer, comment ça s'est passé? Quelles applications il y a eu pour ce réseau-là? Sur quelle machine ça a pu jouer? Comment ils ont pu mettre ça en place?
Alors écoute, il y a un exemple qui est vraiment un très bel exemple et qui va assez loin,
ouais.
Qui est un projet qu'on a gagné et qui est public depuis un an avec Stellantis, où en fait on va aller connecter des outils à main, donc des visseuses à main, qui sont utilisés sur des lignes de production automobile en 5G, pas juste pour le fait de les connecter en fait, mais pour les géolocaliser. Et pourquoi les géolocaliser ? Parce que en réalité, donc sur une ligne de production, elle est divisée en pas de travail. Chaque pas de travail égale en gros une voiture. Sur chaque voiture, à chaque pas de travail, un ouvrier a un certain nombre d'opérations à réaliser. Et ce que Peugeot et Stellantis souhaitent éviter, c'est en fait des problèmes de qualité où un certain nombre d'opérations seraient ratées ou oubliées sur ce pas de travail avant d'aller travailler sur la voiture d'à côté. Et donc, notre outil permet d'aller localiser, notre réseau, pardon, permet de localiser ces outils à moins d'un mètre de précision et ensuite de faire ce qu'on appelle du geofencing. Donc, le geofencing, c'est-à-dire que si les opérations nécessaires n'ont pas été réalisées, on va couper l'outil connecté s'il sort de son pas de travail. Voilà, donc ça, c'est assez concret. Et en fait, il faut vraiment l'imaginer comme un élément de qualité de service. On a des discussions dans l'aéronautique qui sont avec exactement la même problématique. Dans l'aéronautique, ils ont ce qu'ils appellent les foreign object debris. Donc, c'est tout objet oublié à l'intérieur de la carlingue d'un avion qui, en fait, pose plus tard des problèmes de sécurité en vol. Donc, ça, ils souhaitent éviter absolument. Donc, ils veulent savoir exactement où sont les outils et demain, où sont les pièces détachées avant qu'elles s'assemblent.
Et ça, on peut pas le faire avec un réseau classique entre guillemets, le réseau d'Orange, de Free, de Bouygues, même si
alors
loue entre des bancs.
Bah, tu vois, la plupart du temps, les usines en question, elles sont en rase campagne, elles sont peu ou mal couvertes, et surtout là, ce dont je vous parle, c'est vraiment à l'intérieur de bâtiments avec ces fameuses structures en acier. Donc les ondes passent un tout petit peu, mais pas assez bien pour aller faire ce genre d'opération.
Et aujourd'hui, tu travailles avec Orange là-dessus?
On travaille avec Orange, ouais.
Vous faites quoi ?
Eh ben, écoute, on essaye, on va chercher des clients ensemble, puisqu'en fait, on a été sélectionné par l'accélérateur 5G d'Orange, ce qui s'appelle Orange Fab, et on est en train d'aller chercher
des
clients.
Vous êtes ça existe synergétique ?
Ouais, ouais, complètement.
Ben voilà, vous êtes synergétique.
Complètement, complètement, complètement. Bah, tu vois, de la même manière que les réseaux d'Orange sont fournis par Nokia, Huawei, nous, on fournit des petits réseaux hein, qui sont vraiment qui vont connecter. Il faut voir ça, il faut voir la différence d'échelle. Un réseau mobile Orange, il va connecter plusieurs dizaines de millions de personnes. Un réseau mobile d'entreprise Firecell, il va connecter quelques centaines ou milliers d'objets. Donc, c'est ça l'échelle, quoi. Donc, nous, on est un fournisseur pour Orange.
Beaucoup plus pertinent qu'Orange sur des zones plus petites. Et c'est Orange ça. Est beaucoup plus pertinent que vous sur des zones à l'échelle d'un pays.
C'est ça, mais Orange, en fait, c'est aussi un partenaire pour aller adresser des entreprises, puisque lui, il va apporter une couche de service que nous, on ne va pas faire.
Type maintenance, ce genre de choses, c'est ça ?
Ouais, il va faire de la maintenance, il va aussi faire de l'intégration, tu vois, sur site, de l'installation. Nous, on n'a pas les hommes pour aller installer partout en France et partout à l'étranger.
Oui, c'est vrai, autant profiter des compétences qui sont déjà disponibles.
Donc voilà, ça c'est leur métier, ils sont très bons à ça.
Et c'est quoi vos critères de performance pour justement juger l'efficacité de ce genre de réseau ? Est-ce que c'est la fiabilité justement du nombre de connexions qui ont été réussies ? Enfin, comment vous basez là-dessus dans une entreprise pour dire « Ok, là, on a un système qui est fonctionnel et tout va bien se passer ?»
Alors, écoute, tu as plusieurs critères. Le premier, effectivement, c'est la performance de débit atteint à n'importe quel endroit du réseau. Le deuxième, c'est le nombre de terminaux maximum qu'on va pouvoir connecter en simultané sur ce réseau. Et le troisième, alors ce n'est pas le cas pour tous les clients, mais certains clients nous demandent une certaine qualité de service pour un cas d'usage précis. Donc ce cas d'usage, il est tellement critique pour eux qu'ils vont nous demander de garantir un débit ou de garantir une latence à tout moment dans leur entrepôt ou dans leur usine.
Tu aurais des ordres de grandeur de la vitesse et de la capacité d'information qui peut être transmise d'une antenne à une autre pour la 4G et pour la 5G et pour le Wi-Fi éventuellement.
Ouais, mettre en relief même avec ce qui se faisait avant.
Alors, j'ai pas tous les tous les rapports. Je peux vous donner des ordres de grandeur. Hein. En 5G, on est capable d'aller jusqu'à 1,2 gigabits seconde.
Ça représente quoi? Tu aurais un truc qui... Ouais.
C'est pas mal quand même.
Non, franchement, je sais même pas vous dire à quoi ça correspond.
Faut dire, un film, il me semble que c'est... téléchargé légalement en ligne, c'est de l'ordre du moins de 10 gigas. Donc ça veut dire qu'en moins de 10 secondes, on peut télécharger un film, alors qu'il me semble qu'il y a rien que 5 ans, c'était plutôt 3-4 heures pour télécharger un film globalement.
Et alors tu vois, j'ai pas les ordres de grandeur par rapport au Wi-Fi ou à la 4G, mais je pense que en Wi-Fi, c'est vraiment 10 fois moins, que ça. Et ensuite, l'autre élément intéressant, c'est la latence. La latence, on va en fait être capable d'atteindre des latences qui sont équivalentes à celles d'un câble Ethernet, donc en dessous de 10 millisecondes.
Est-ce que tu peux nous rappeler exactement ce que c'est la latence ?
Donc la latence, c'est le temps nécessaire pour une information.
Pour faire aller-retour.
Voilà, aller-retour sur le réseau. Et ça, c'est hyper important pour des usages très critiques, comme aller piloter des machines qui remontent des informations temps réel.
Ouais, on a besoin de savoir au moment réel, c'est ça, qu'est-ce qui se passe, s'il y a un problème.
Est-ce que ça bouleverse l'écosystème de l'IoT, des objets intelligents?
Alors, je pense que ça ne le bouleverse pas encore, mais ça a le potentiel de le bouleverser.
Parce que du coup, ça va faire émerger plein de nouvelles idées d'applications, de connexions entre les objets.
Si tu veux, aujourd'hui, l'IoT, il a eu du mal à décoller. D'abord, il a eu du mal à mettre en place un standard. Donc, la force de la 5G, c'est un, ce standard, et deux, tout l'écosystème des entreprises qui est derrière, qui pousse, qui sont des grosses boîtes... et qui sont à même en fait de faire baisser les coûts du réseau. Dans l'IoT, c'est beaucoup cherché quoi, entre Sigfox, LoRa,
problèmes d'infrastructure,
je sais pas quoi. Voilà, il y a eu plein de problèmes d'infrastructure et puis du coup, l'entreprise elle est face à un choix qui est je vais parier sur le standard lambda là, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est le bon, c'est pas le bon. Donc c'est franchement, je pense que c'était assez compliqué. Ce morcellement des standards, c'est plutôt déstabilisant pour une entreprise. Alors que la 5G, là, on est sur quelque chose qui est tellement reconnu, tellement widespread, quoi, hein, partout dans le monde, que bon, bah, y a pas photo, on se trompe pas.
Tu peux rappeler 2-3 exemples d'objets d'IoT dans l'entreprise ?
Dans l'IoT, c'est surtout des capteurs.
Ouais.
Et dans le monde de l'entreprise, ça va être des capteurs qui vont aller mesurer la pression, la température.
Et en fonction de ces résultats-ci, ça envoie des ordres automatiques type « il y a trop de pression, tu vides un peu la valve » ou j'en sais rien.
Voilà, c'est ça, exactement. En fait, ça permet de monitorer le fonctionnement d'une machine à distance, en temps réel, et de pouvoir... En fait, éviter la casse, quoi. Hein, ou
principe d'asservissement, c'est ça.
Voilà, optimiser au maximum le fonctionnement de tes machines. Donc c'est super important et c'est important partout, mais en fait ça utilise que peu de bandes passantes. En fait, c'est pas quelque chose qui est excessivement consommateur. On en voit partout, on peut en mettre partout. Donc pour moi, la 5G, elle va pas forcément révolutionner l'IoT, mais il est possible que la 5G, à partir du moment où les coûts d'infrastructure sont suffisamment bas et les coûts des chips, hein, des puces 5G sont suffisamment faibles, ça peut vraiment enfin faire exploser l'IoT et multiplier les capteurs. Aujourd'hui, on sent que c'est quand même un peu poussif, ça fait des années que c'est là et ça décolle pas, quoi.
C'est cher de déployer un réseau 5G comme ça dans une entreprise ?
Écoute, nous, notre objectif, c'est que ce soit au niveau du coût du Wi-Fi.
D'accord.
Donc, je vous donne un... Pas plus. Pourquoi ? Parce que on a identifié ça comme un frein, c'est-à-dire que ceux qui vont acheter les réseaux 5G dans les entreprises, c'est les départements informatiques, et eux, ils sont très à l'aise avec le réseau Wi-Fi, ils savent comment ça marche et ils savent combien ça coûte. Donc nous, notre objectif, c'est de nous aligner là-dessus. C'est ça le standard du marché.
Mais ça vous coûte aussi cher de déployer un réseau 5G qu'un réseau Wi-Fi ? En termes d'équipement, vous, en coût fixe, tu vois.
Écoute, je ne sais pas si ça coûte aussi cher, mais en tout cas, nous, on arrive à peu près au même niveau. Donc, je peux vous donner un exemple. Hein, pour un entrepôt de 5000 m², on parle d'un coût de 30 000 euros par an.
Okay. OK. Pour l'entreprise.
Pour l'entreprise.
Et pour vous ? On marge à combien ?
Bah, nous, on marge confortablement. Quoi, hein. il faut bien gagner sa vie.
Bien sûr. On ne sait jamais si jamais tu as des clients qui passent. En plus, tu n'as pas de prix standard, toi aussi ? T'avais pris standard ?
C'est-à-dire ?
T'as un prix affiché ou tous tes prix sont négociables ?
Alors, nos prix sont affichés. Nous, on a joué à la transparence. Ouais, à fond, depuis le début. On veut justement se démarquer dans ce monde des télécoms où tout se fait un peu
tout
en
sous-main,
tout se négocie. Et en fait.
Tu peux te retrouver à payer 4 fois plus cher que ton voisin.
Non, mais c'est ça. On a l'impression que les entreprises utilisent le manque de compréhension de ce qu'il y a derrière pour pousser n'importe quel prix. Donc nous, on s'est dit, non, il faut qu'on coupe ça, quoi. Hein. On va mettre un prix unique, ou en tout cas unique par type d'offre. Et puis voilà, c'est pas négociable, c'est comme ça, quoi.
Hein. Bon, ta comptable doit être très content, plus simple à gérer après. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir un réseau 5G pour un particulier qui a une maison entièrement connectée ?
Je pense qu'à
terme. En termes de sécurité aussi, tu vois.
Ouais, je pense qu'à terme, nous on commence à discuter notamment avec des villes de petite taille qui en fait n'ont pas la fibre ou qui ont la fibre juste à un certain endroit. Et donc typiquement, si on étend un particulier qui n'a pas la fibre chez lui, un réseau 5G privé peut servir d'extension de réseau à moindre coût.
Pourrait t'aligner là aussi sur le coup
pour un particulier. Ouais, on pourrait tout à fait. On n'y est pas, hein, franchement, là, parce que là, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de volume. Mais moi, je pense que ce n'est pas inenvisageable.
Si tu as ta maison de campagne qui n'est même pas raccordée au Wi-Fi classique, tu vois.
C'est ça.
Là, tu pourrais.
Absolument.
Ok. Et là, c'est juste quoi ? Tu branches un truc sur ta prise et c'est bon ?
C'est un peu plus compliqué que ça, quand même.
C'est difficile,
hein. Ouais, parce que si tu veux. Tu as besoin d'une puissance de calcul, donc on pourrait imaginer que la puissance de calcul, elle est dans le cloud, mais tu as quand même besoin d'un moyen d'amener cette puissance de calcul à l'endroit où tu es. Donc,
Ou alors tu as un micro data center dans ton garage.
Ouais,
je sais pas, si ça fait 30 cm par 30 cm, tu vois.
Il faut y aller, quoi.
Moi, j'ai la place. Hein.
Ouais, mais il faut surtout avoir l'usage derrière, quoi.
Et bah franchement,
avoir un micro data center chez soi,
mais
je sais pas ce que tu fais, mais
quand tu captes pas internet chez toi, si ça te permet d'avoir internet,
c'est violent, hein. C'est comme opérer du genou à la tronçonneuse, quoi. Mais
non, mais je pense franchement que les opérateurs, le jour où cette techno sera vraiment déployée massivement dans les entreprises, ils pourront commencer à regarder des équipements bas coût. Miniaturisés, qui pourraient utiliser pour déployer en fait des zones blanches, parce qu'en fait là, ce dont tu parles, c'est vraiment le cas typique de zones blanches où les opérateurs n'ont pas déployé leur propre réseau parce qu'il n'y a pas assez de personnes, quoi, c'est pas rentable. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si le coût est suffisamment bas, toi en tant que particulier, tu vas accepter de payer un petit bout d'infrastructure que tu vas mettre chez toi pour avoir cette connexion.
Aujourd'hui, c'est quelle proportion des entreprises qui sont équipées en 5G ?
Ah, c'est vraiment le début, quoi. Ah ouais, c'est ridicule.
Et sur l'industrie ?
Alors, il y a une stat de dingue, c'est que quand on regarde l'industrie, il n'y a que 3% des connexions qui sont sans fil. Donc en fait, on en est qu'au début du début. Il n'y a rien, quoi. Hein. C'est vraiment le no man's land.
T'es en train de nous dire que ça fonctionne au câble Ethernet encore ?
Ouais. Tout est au câble Ethernet.
Dans des énormes supply chains ?
Chez Amazon.
Alors. Pas dans ceux qui sont avancés,
ouais,
tu vois.
Sûr, ils ont, ceux qui ont les moyens, ils ont.
Voilà. Exotech chez eux, t'inquiète.
Oui, ouais.
Voilà, mais... Exotech, ils utilisent du Wi-Fi.
Ah ouais?
Tu vois, je les ai visités à Atlanta, à leur nouveau.
Je les reçois sur ce podcast prochainement.
Et écoute, non, mais c'est impressionnant hein, ce qu'ils ont fait, c'est génial. Hein. Donc, nous, on aimerait.
Exotech, ça fonctionne en 5G.
C'est du sans fil, quoi, déjà.
C'est du sans fil.
Déjà, ils ont une étape supérieure. Ouais,
mais ça, ils utilisent du Wi-Fi, on est en train d'essayer de les convaincre. D'utiliser de la 5G.
J'envoie un WhatsApp après, je dis à Romain. Man, là, ça va pas.
Mais tu parlais tout à l'heure, enfin, on prenait l'exemple du film pour la latence, etc. Bon, je sais pas si au bureau ou à la supply chain, il y a beaucoup de gens qui téléchargent des films, j'espère pas. Mais comment, justement, le fait d'avoir ce réseau, plus de rapidité, etc., ça peut aussi améliorer la vie quotidienne des travailleurs du fait de la meilleure performance des systèmes?
Alors,
comment ça peut impacter leur activité?
Ouais, alors ça peut l'impacter. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui, des questions juste de gain de temps.
Ouais.
C'est
ça qui est important.
Aujourd'hui, c'est le temps et l'efficacité du personnel. C'est-à-dire, les exemples qu'on nous remonte dans des sociétés de picking, le réseau Wi-Fi tombe en panne deux fois par jour et je suis obligé d'aller faire l'aller-retour dans mon entrepôt pour.
Du fait qu'il soit juste surchargé, c'est ça ce problème de. Ouais,
qu'il est instable.
Divers, okay.
Ouais, plein de problèmes divers. Donc, ça, c'est le premier, c'est l'efficacité. Je pense que le deuxième, on n'y a pas encore trop touché, c'est le problème de la sécurité des travailleurs. Alors, notamment dans des environnements où tu as pas mal de robots automatiques. Nous, on a travaillé sur ce concept de géolocalisation. Chaque ouvrier, il a sur lui des équipements que l'on peut connecter. Et à partir du moment où un robot reconnaît la présence d'un de ses équipements à proximité, on va baisser sa vitesse, voire l'arrêter.
D'accord.
Tu vois, donc ça, c'est vraiment typiquement pour améliorer la sécurité des travailleurs. Et puis l'autre, ça peut être d'identifier des chutes ou d'aller... se savoir exactement où ils sont, s'ils sont dans des zones à risque ou des zones...
Tu l'appliques au management ou pas ?
Pardon ?
Ça, tu l'appliques au management ou pas ? Je pense par exemple à Amazon qui traque tout. Ah non, mais moi je pense que si tu dis ça à Jeff Bezos, là demain, il signe direct pour faire de l'espionnage, tu vois.
Je l'envoie vite fait pour qu'on le challenge un peu au passage et c'est bon.
Non, là c'est dur, là ouais. dur.
Non, mais là donc... vous faites quand même attention ou pas ?
Ouais, non.
Refuses des clients en fonction de l'application qu'ils veulent faire de ta techno ?
Non, pour l'instant,
ça n'est pas encore arrivé.
On n'en est pas là. Mais oui, on fera attention au côté éthique de l'usage de ces réseaux. Et juste pour finir, je pense qu'il y en a, d'autres hein, qui est en fait l'aide aux ouvriers dans des situations complexes, difficiles, où ils n'ont pas forcément toute l'expertise.
Je pense que c'est important de le rappeler.
Donc,
ouais.
Voilà, donc là, comme le public le sait, il y a aujourd'hui toutes les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée. Ça demande beaucoup de bande passante. Et donc, un réseau 5G, il est vraiment à même d'aller nourrir ce type d'application. C'est-à-dire que tu as un ouvrier qui va être dans une centrale nucléaire, un endroit où il n'a pas l'habitude d'aller, où il va, je ne sais pas moi, deux fois par an. Et ben, il ne connaît pas tout par cœur. Donc, du coup, il a des équipes derrière qui l'assistent, qui voient exactement ce qu'il fait en temps réel. Et ça, c'est encore un gain d'efficacité. Quoi.
Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que... on n'y pense pas toujours, mais bon, le déploiement de ces générations, elle vient aussi, en tout cas, elle est corrélée à la diversité des usages qui sont en train de naître, que ce soit en entreprise ou pour les particuliers. Est-ce que toi, tu dirais que c'est vraiment aujourd'hui une nécessité structurelle d'avoir ce type de réseau avec la puissance qui est associée pour pouvoir espérer supporter tous ces nouveaux usages qu'on veut mettre en place dans l'entreprise, dans le...
Pour moi, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que si les entreprises veulent développer de l'innovation... rentrer vraiment à plein dans le monde du digital, elles ont l'obligation d'avoir une infrastructure de connectivité comme celle-là. Sinon, elles seront freinées. Enfin, nous, on a eu des discussions, la SNCF nous l'a dit, ils nous l'ont dit texto. Aujourd'hui, on a compris que si on se plantait sur notre stratégie de connectivité, on allait se planter sur notre stratégie digitale. Et donc ça a un impact, ça a des impacts vraiment à tous les échelons. Quoi.
C'est vrai qu'on parle de réalité virtuelle, on parle de robots, etc. Mais on a besoin de supporter. C'est des technologies qui consomment énormément. J'ai l'impression qu'on a vraiment un besoin aujourd'hui, même nous dans notre consommation personnelle. Enfin, on a plus le choix. Quoi. C'est soit on réduit nos usages, soit on augmente la puissance. Malheureusement, la balance elle doit s'équilibrer.
Et puis tu vois, je pense que en fait, il y a aussi une tolérance. Qui est de plus en plus faible au fait de ne pas être connecté.
Une addiction à la connexion.
Ah ouais, non, mais c'est insupportable de plus être connecté. De dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas travailler.
Il y a une
monde
connecté en plus.
Ouais. Ah ouais, c'est terrible.
Ouais.
Non, mais oui, c'est vrai que. C'est dommage, je n'irai pas travailler dans une boîte où je ne suis pas connecté. Mais j'aime bien quand même, moi, mes week-ends déconnectés. Ça, j'avoue que...
Ah, mais c'est sûr que c'est un vrai gros kiff, quoi. En fait, on retrouve le plaisir de ne pas être connecté.
Ah bah, complètement, ça fait même beaucoup de bien.
Ouais. J'allais te demander s'il y avait des secteurs où ça s'appliquait, où la 5G allait avoir le plus grand impact. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt la question inverse que je devrais te poser ? C'est dans quel secteur la 5G n'aura pas d'impact ?
Waouh, chaud.
Mais il y a des secteurs dans lesquels c'est vraiment... l'impact, il est flagrant et tous les acteurs, ils sautent dessus à pieds joints ou pas ?
Je dirais là, il y a vraiment besoin de technologie, non ?
Je vous dis tout à l'heure, je vous ai parlé de logistique et d'industrie manufacturière. Il y a les ports qui sont des gros consommateurs aussi, parce qu'en fait, toutes ces grandes machines, etc., elles sont de plus en plus automatisées. Vous avez les sites de construction dans lesquels, notamment dans des mines, dans lesquels il y a plein de véhicules qui sont connectés, qui sont automatisés aussi.
En fait, c'est tous les secteurs où on a besoin de communiquer en temps réel sur des longues distances, c'est ça principalement
Ouais, mais tu vois, il y a aussi pas mal d'usages dans les hôpitaux. Alors nous, on ne travaille pas sur ce créneau-là, mais dans les hôpitaux, il y a de la télémédecine, il y a, on parlait de capteurs tout à l'heure, en fait, il y a plein de capteurs et le personnel hospitalier cherche à savoir aussi où sont les outils, est-ce qu'ils sont utilisés, est-ce qu'il faut investir dans tel ou tel truc, voilà, tout ça, c'est à chaque fois de la data que le personnel cherche à obtenir en temps réel pour comprendre et améliorer le fonctionnement de son entreprise, quoi.
Pour creuser un petit peu les applications, tout à l'heure tu en as parlé, est-ce qu'on pourrait faire des villes intelligentes, totalement connectées ? Je sais que dans, par exemple, Singapour ou Dubaï ou dans les Émirats, c'est des choses qui sont regardées de très très très, très près. Qu'est-ce que tu vois là-dessus, toi ?
Ouais, bah, je pense que c'est pas du tout utopique. Donc ça, c'est plutôt le boulot des opérateurs télécoms. C'est eux qui sont les mieux placés parce que là, ville connectée dit. Alors, tu vois, il y a l'extérieur et puis il y a les bâtiments. Les bâtiments, la plupart du temps, ils sont privés. Donc s'ils sont privés, bon, c'est à chacun de faire le nécessaire et de gérer son bâtiment. Mais qui dit ville connectée dit que les voitures sont autonomes, dit que l'éclairage va s'allumer tout seul, que les caméras de sécurité, finalement, elles vont toutes être connectées et on va aller pouvoir faire décoller des drones dans des situations particulières. Enfin voilà, il y a une fois de plus une recherche de l'efficacité de l'efficacité dans la performance d'une ville et aussi d'ailleurs dans la performance énergétique grâce à cette connectivité de tout un tas d'éléments que font une ville, quoi. Donc je vous ai parlé d'éclairage, il y a la sécurité, il y a la mobilité. On n'a pas parlé des stades, hein, mais dans les stades, et puis il y a plein de choses. Il y a l'événementiel aussi, hein, dans l'événementiel. Alors il y a des besoins exprimés par les forces de sécurité quand on a un gros événement qui est en dehors d'un stade.
Ouais, je sais pas, les JO.
Ouais, les JO, une fan zone, un marché de Noël, je sais pas moi, un Ironman, le Tour de France, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, y a des problèmes de sécurité, mais par contre t'as une foule hyper compacte.
Ouais, y a jamais de réseau.
Voilà, qui dit foule hyper compacte dit que tout le monde pompe sur les mêmes antennes, donc t'as plus de réseau. Et donc le fait de pouvoir déployer des réseaux à côté qui peuvent être privés pour les forces de sécurité, à ce moment-là tu redonnes la possibilité aux forces de sécurité de communiquer entre elles de manière sécurisée.
C'est pas déjà fait, elles ont pas déjà des ondes particulières?
Elles ont ouais,
des canaux spéciaux,
mais c'est pas du multimédia.
Ok.
Tu vois, aujourd'hui de la voix ou du push to talk.
Ouais.
Faudrait que je discute avec William Eldin, qui est un de nos anciens invités et qui lui fait de la reconnaissance vidéo à travers l'intelligence artificielle et qui nous parlait de ce type de dispositif, de l'importance de les mettre en place sur des événements comme
Absolument.
Ça. Et donc d'avoir derrière aussi la couverture nécessaire pour pouvoir le supporter.
Absolument. Ouais. Bah, en fait, nous, ce qu'on a imaginé, hein, c'est un dispositif dans lequel on va déployer pendant le temps de l'événement un mini réseau avec des caméras connectées et de l'intelligence artificielle pour aller détecter du mouvement de foule, de l'intrusion.
Le mec qui fait un malaise au milieu.
Voilà, ouais, des trucs comme ça, pour être au plus proche et le plus efficace possible au moment où ça se passe, quoi.
Est-ce qu'il y a des réticences au sein des entreprises? On va peut-être pas parler trop du débat grand public, mais vous qui vous sont évoqués sur l'implémentation de cette 5G ou même du réseau privé de 4G déjà?
Moi, je sens plus de la peur. Quand je dis peur, en fait, c'est pas de la peur liée aux éléments santé ou autre. Non, c'est plus une peur économique. C'est-à-dire que 5G égale gros opérateur égale gros machin très cher. Ouais. Voilà, et très compliqué.
Un gros coup de maintenance.
Voilà.
Ouais.
Donc nous, c'est vraiment ça qu'on essaie de casser. Mais c'est ça qu'on ressent quand même. Il y a pas mal d'entreprises qui finalement ne se sont pas penché sur la question, découvre le sujet et se dit « Oulala, ça c'est pas pour moi, ça va être beaucoup trop compliqué ». Et je trouve que en fait, les opérationnels terrain, c'est-à-dire que ceux qui bossent dans les usines, sur les process, etc., sont beaucoup plus au fait et beaucoup plus ouverts que les départements informatiques. Les départements informatiques ont quand même tendance à rester dans leur petit précaré parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils ont déployé et que là, d'un seul coup, il y a un truc nouveau qui arrive. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire, comment, etc. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir embrasser une nouvelle techno. Donc il y a un petit peu, voilà, des, je peux pas dire que ce soit des freins, mais c'est indirect, quoi. Hein.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Au niveau de l'installation, moi, il me semble que tu le mentionnais un petit peu tout à l'heure avec la nécessité d'avoir de la main-d'œuvre type intégrateur. C'est compliqué de l'intégrer. Si moi, demain, justement, j'ai une entreprise dans l'industrie, est-ce que c'est complexe de le plugger à des choses qui existent déjà? Ou finalement, non, c'est pas très.
Non, okay. C'est bien. Pas plus compliqué qu'un réseau Wi-Fi, quoi.
Ok, vraiment. Donc c'est très non. Classique. Ok.
Je sais que vous ne travaillez pas là-dessus, mais comment ça s'implémente dans les hôpitaux, dans la médecine, etc. Quel impact
alors, ça le cas d'usage le plus simple, c'est vraiment l'IoT. Hein, l'IoT dans l'hôpital. Donc, être capable de savoir où est sa flotte d'équipements, quel est le taux d'usage de cet équipement, quel est le taux d'usure de cet équipement, pour pouvoir le gérer au plus proche. J'ai eu des retours d'expérience d'hôpitaux qui se disaient « Ah ouais, j'avais compris que tel équipement en fait était utilisé à 20% et qu'en fait on en commande beaucoup trop. » Voilà, donc ça c'est plutôt dans de la gestion de flotte et de la gestion d'équipement. Le deuxième, ça va être tout bêtement de la connexion des outils utilisés par les soignants. Donc, ils ont de plus en plus des tablettes. Sur ces tablettes, elles sont connectées à leur base de données, toute leur base de connaissances patients, etc. Et ils les utilisent partout, voilà, comme un outil qui leur permet d'aller plus vite, d'être efficace, de prendre des notes, de comprendre exactement quel est le problème avec tel patient. Et puis le troisième, qui lui est un petit peu plus de la science-fiction, mais finalement qui est possible aujourd'hui, c'est de la médecine à distance. Donc on pourrait imaginer un chirurgien hyper spécialisé qui ne reste pas dans son lit, mais qui est dans une ville et qui va opérer à distance quelqu'un avec des machines connectées sur un patient qui est dans une autre ville.
Grâce à la 4G, c'est du temps réel.
Voilà, grâce à la 5G.
Ouais. Quasiment temps réel.
Grâce à la latence, hein, voilà. Ouais. Grâce à la latence super faible, on va avoir du quasi temps réel.
Ça se rapproche en tout cas vraiment.
Ouais, ouais. Donc c'est quelque chose qui est possible.
C'est quoi? C'est de la milliseconde?
Ouais, je te disais tout à l'heure, nous on est capable de faire moins de 10 millisecondes, mais on va pouvoir faire moins de 5 millisecondes. Donc c'est vraiment.
Et la 6G, on se rapproche encore plus, c'est ça potentiellement?
Franchement, okay, la 6G, alors oubliez parce que.
On la verra jamais.
Non, c'est pas qu'on la verra jamais, c'est que c'est le début des travaux de spécification de ce que ça va
d'accord,
être.
D'accord, ok.
Il y en a pour 10 ans. Hein. Il y en a pour 10 ans.
Ouais, et puis est-ce qu'on a besoin que ça aille encore plus vite que là? On verra, mais pour l'instant.
Malheureusement, l'accélération fait qu'il y aura peut-être des usages, mais ouais, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là.
La télémédecine, ça me fait penser à un truc. Tout à l'heure, on parlait d'Exotech. Est-ce que c'est avec votre techno, on pourrait, et par exemple Exotech qui font des robots, ce serait possible de faire des usines totalement robotisées où il n'y a pas un être humain dedans? Et par exemple, on pourrait produire dans l'espace. On va avoir un invité qui a produit des vignes dans l'espace et là, il va aller faire des ordinateurs dans l'espace.
Et même de l'industrie de pointe, vraiment. Parce chambre blanche
dans l'espace gratos. Et grande comme tu veux.
Excellent.
Mais bref, du coup, ça c'est possible avec un réseau de 5G privé d'avoir un entrepôt totalement robotisé?
Complètement.
Quand j'y pense, la question de fou qu'on lui pose, c'est possible avec ton réseau de faire des trucs dans l'espace? Ça n'a aucun sens, c'est la question qu'on n'a jamais posée.
Non, mais complètement, en fait, c'est pas du tout de la science-fiction. C'est-à-dire que d'abord, économiquement, bah, ça a du sens.
Ah, énormément de
sens. Ça veut dire que tu as une usine qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Tu n'as pas tes charges salariales.
Pas de problème de charge. Tu peux la piloter à distance. Hein, donc, ce que font les armées avec leurs drones à distance, bah, finalement, pourquoi tu le ferais pas avec une usine? T'as une usine qui tourne, qui est automatisée, et toi, t'as un centre de contrôle.
Tu peux la mettre au milieu de nulle part, en plus.
Voilà, tu peux la mettre au milieu de nulle part où ça coûte rien. T'as ton centre de contrôle avec tes mecs qui gèrent tout ça à distance. Et éventuellement, quand il y a un problème, généralement, hein, c'est d'ailleurs ce que disait Exotech, hein, ils arrivent à régler 90% des problèmes à distance. Et puis, quand il y en a qui touchent vraiment à du hardware, on envoie quelqu'un, et puis il va résoudre le problème sur place.
Aujourd'hui, tu connais des entreprises qui fonctionnent comme ça?
Non.
Pourquoi?
Non. Moi, je pense que...
Peut-être un peu tôt.
Il y a d'autres
hein.
technos qui ne sont pas prêtes à côté.
C'est encore un peu tôt. Ouais. Mais franchement, je pense que c'est une question de quelques années, quoi. parce que
c'est les gens, ils ont que les personnes ont peur de laisser leur matos comme ça.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de mentalité aussi derrière.
Je pense qu'il y a un problème psychologique.
On n'est pas prêt à ce que ce soit le cas,
ouais,
mais
ouais. Je pense qu'on va, de toute façon, on va avoir du personnel de surveillance sur site d'abord, et puis on va attendre d'avoir suffisamment de recul pour s'assurer d'avoir identifié et anticipé tous les problèmes éventuels qui peuvent se passer avant d'y aller. C'est comme pour les voitures autonomes. Hein. Comme vous le savez, ça fait des années qu'en Californie, les voitures autonomes, elles tournent toutes seules, elles font des millions de kilomètres avant que ce soit homologué par les États.
Mais là, c'est encore un peu différent, parce que tu vois, on en discutait avec Luc Julia, le fondateur de Siri, et il nous expliquait que les voitures autonomes, la problématique, c'est qu'il y a tellement d'informations diverses et variées, et une information qui est tellement différente qu'il faut une vraie intelligence générale, au sens où faut que la
base... Il y a une infinité de cas d'usage, quoi.
Ouais,
tu pourras jamais prévoir le...
Faut que quelqu'un avec un ballon rouge, tu vois, soit pas confondu avec un stop.
Ouais.
Et ça, la différence, elle est fine. Hein.
C'est chaud.
Elle est hyper fine. Donc.
Non, mais tu vois, dans un environnement fermé.
Où tout est contrôlé, moi,
où tout est contrôlé. Non, mais je pense que c'est plus une question de préparation des états d'esprit. À mon avis, c'est moins de 5 ans.
Hein. Bon, si Tesla ouvre une usine en France, à l'heure où on tourne cet épisode, ce n'est pas fait. Faut que vous y alliez direct. Hein.
Ouais, faut qu'on y aille direct.
C'est clair.
C'est clair, non, c'est de la balle.
Parce que
c'est
les contacts.
C'est peut-être un des premiers. Je ne vais pas dire si j'ai les contacts ou pas. On va m'envoyer des messages pour me demander le contact.
Non, mais tu vois, nous, on travaille avec des partenaires qui ont pour objectif de faire des entrepôts complètement autonomes.
Hein. Donc, tu as des exemples là, comme ça, à citer ?
Non, j'ai pas, parce que c'est confidentiel et qu'on est en discussion. Mais pour moi, toute la partie logistique, il y a vraiment de grandes chances que, tu vois, ce qui est capable de faire Exotech. Tu peux vraiment l'imaginer de manière très automatisée dans des cas de figure particuliers. Donc,
est-ce que vous intéressez les institutions publiques, justement, type hôpitaux, etc. Enfin, c'est pas forcément les hôpitaux, mais j'imagine qu'il y a des applications dans les institutions peut-être. Est-ce qu'ils se tournent un peu vers vous ? Est-ce qu'ils
regardent ? On en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'applications dans la sécurité civile.
D'accord. Ouais.
Voire même dans les armées.
D'accord.
Donc nous, on a gagné quelques contrats rigolos avec l'armée américaine.
Ok.
Et puis d'autres, dans ce genre de mouvance. On est en train de, on a embarqué un de nos systèmes dans une camionnette des pompiers avec un partenaire qui s'appelle TPL, qui est basé à Sarlat, qui est spécialisé dans tout ce qui est communication pour les forces de pompiers et de police. Et le principe, c'est tu embarques dans un véhicule un mini réseau 5G, tu as une antenne télescopique et tu vas arriver sur un lieu de catastrophe naturelle comme ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, où d'immenses feux ou un tremblement de terre ou je sais pas quoi qui fait que toutes les télécommunications sont down. Et tu arrives, boum, en quelques minutes, tu déploies un mini réseau qui peut avoir une portée de 1 à 5 kilomètres. Et tu vas équiper tes forces de sécurité avec un mobile qui, lui, sera déjà pré-provisionné sur ce réseau.
Tu peux même envoyer les petits chiens Boston Dynamics là, aller chercher
les gens. Le réseau.
Les petits robots.
Donc ça, c'est quand même un super concept. Donc nous, on travaille... effectivement, on pense que ça, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Ça peut fonctionner en cas d'attaque terroriste. Et puis, ça peut fonctionner pour des armées qui sont dans un cadre opérationnel.
Parce que du fait que ce soit privé, on est sûr justement que il y a pas moyen de, en tout cas le down, le
ouais, exactement.
Et vraiment, c'est impossible.
Attends, moi je sais pas si c'est impossible.
Tu fais gaffe parce que en cybersécurité, rien n'est impossible.
Hein. C'est ça le problème.
Mais c'est vraiment la barrière à l'entrée est vraiment très très haute.
Ouais, la barrière à l'entrée est très haute. Et puis de toute façon, nous, on travaille déjà avec des partenaires qui rajoutent une couche de cybersécurité par-dessus.
Ok.
Tu vois. Parce qu'on a conscience qu'il faut, de toute façon, qu'on rassure les gens, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a un sujet qui va au-delà du cyber, hein, c'est que qu'est-ce qui se passe dans des temps de guerre, hein, c'est qu'on brouille, on débrouille les ondes.
C'est presque une question de souveraineté, en fait, sur certains aspects.
Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que ce qu'on fait intéresse les armées, les forces spéciales, etc., c'est que on est le premier équipementier de réseau télécom souverain, français.
ça fait nécessairement penser à une guerre qui se passe pas très loin. On imagine avec le conflit russo-ukrainien où justement je sais que les deux s'attaquent au niveau de la cyber sur les réseaux. C'est le genre de parade qu'on pourrait imaginer mettre en place pour un pays pour avoir en fait finalement rétablir tout de suite une communication pour les d'accord.
Complètement. Et tu vas aller brouiller, les communications de l'ennemi, et puis toi, tu vas déployer un réseau un peu invisible qui est difficile à détecter et qui est difficile surtout à intégrer. Quoi.
Tu vois ce que est en train de développer Starlink ou même Apple, ouais. Ils veulent faire un réseau par satellite. Est-ce que ça, c'est en concurrence avec votre réseau ou au contraire, ça devient encore plus complémentaire?
Alors pour moi, c'est vraiment complémentaire. Parce que en fait, très souvent, tu vois, dans le concept de camionnette 5G ou de réseau déployable mobile, un réseau satellite va être utilisé comme lien. Alors, je sais plus comment on dit en français backhaul. Hein, c'est-à-dire que tu vas connecter en fait ta camionnette avec un centre de contrôle qui lui est à distance. Donc en fait, c'est vraiment hyper complémentaire. Ton réseau satellite, il va, voilà, d'abord il a pas le même débit, il va pas forcément te donner la capacité de rentrer à l'intérieur des bâtiments. Enfin, il a un certain nombre de contraintes intrinsèques et techniques qui font que tu adresses pas tout à fait les mêmes cas d'usage. Donc pour moi, c'est complémentaire.
Comment tu nous dis justement, on peut déployer rapidement des petits réseaux là où on veut. Comment ça se matérialise, physiquement, c'est quoi, vous proposez des boîtiers, comment ça se passe un petit peu?
Là, ce type de réseau, ouais, tu vois, on le met dans ce qu'on appelle un fly case. Donc, tu mets ton serveur, ton antenne, ta radio, une antenne télescopique dans une espèce de grosse boîte. Et cette grosse boîte, tu la transportes par hélicoptère, par camion, par je sais pas quoi. Hop, tu l'ouvres, tu la déploies.
Et là, on est OK, quoi.
En quelques minutes, t'as ton réseau.
Je viens de penser à un truc. Ma voiture a un système de SOS où je peux appeler les secours si jamais j'ai quoi que ce soit. Est-ce que c'est de la 5G embarquée?
Non. Non.
Tu sais
Non, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est... Il est possible que ce soit de la 2G.
Ah ouais,
ouais.
Après, c'est un coup de téléphone, donc
ouais.
Pas besoin que ça aille vite. Hein.
Non, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Okay.
Mais ce n'est pas de la 5G embarquée?
Non, pas du tout.
Ok.
Non.
Et ça pourrait être pertinent de mettre de la 5G embarquée?
Voilà.
Alors les Tesla, ce n'est pas de la 5G embarquée?
Non.
Ça paraît gros pour l'usage aussi, non?
Non, parce que tu vois, c'est pas grand-chose, c'est un tout petit message, quoi.
Ouais, mais sur une Tesla, je vais pas dire ma Tesla, on peut streamer des vidéos sur la tablette, quoi.
Ouais.
Tu sais, quand tu recharges ta voiture, tu fais ce que tu veux sur ta tablette.
Ouais, mais...
Tu peux même utiliser un double screen avec un petit plugin.
Qu'à faire, tu fais un partage de co, je pense que c'est aussi rapide.
Bah, ça dépend.
Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que les bagnoles, elles ont de plus en plus des cartes SIM opérateurs. Donc en fait, elle embarque une multi-SIM, donc une SIM Orange, une SIM SFR, une SIM Bouygues, comme ça, tu sais qu'à n'importe quel endroit, tu es garanti d'avoir une couverture.
Ok.
Donc okay. Ça, c'est le plus simple.
Et mettre votre techno dedans, ça pourrait être intéressant ou...
Ouf.
On va pas
je suis pas sûr. Hein. Non, je suis pas convaincu.
La eSIM, elle sert à quoi en fait exactement? C'est-à-dire qu'elle permet de... Enfin... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ouais, exactement.
eSIM versus SIM, tu veux
dire? Ou même la SIM, justement, dont tu parles pour le réseau, qui permet juste de faire la liaison, c'est ça?
C'est l'identité technologique qui te permet de rentrer sur le réseau et qui va vraiment crypter le message.
C'est vraiment le passe d'entrée.
C'est la clé d'entrée, quoi.
Okay.
Ouais, c'est ça, c'est la clé. Si tu n'as pas ça, tu ne rentres pas. Alors qu'en Wi-Fi, comme tu sais, voilà, mot de passe, hop, ça y est, je suis dedans.
Et vous avez fait le choix des eSIM, c'est ça?
Nous, on travaille sur les deux standards. Ouais.
Pour parce que vous avez besoin de différentes technologies selon les cas, c'est ça?
Ouais, parce qu'il faut s'adapter à ce qui existe sur le marché, donc des SIM pour des mobiles, des tablettes, et de l'eSIM pour des équipements un peu plus compliqués.
Dans ton téléphone, t'as une SIM?
Ouais.
Moi, j'ai une eSIM. Hein.
Ouais, j'ai une SIM moi, encore.
Ah, ouais, okay.
À l'ancienne.
Ça fait longtemps que j'ai. Ok. T'as une SIM, Paul?
Moi, je crois que j'ai une eSIM. C'est les plus petites, c'est ça?
Non, une eSIM, c'est totalement live. Genre,
c'est virtualisé. C'est
virtuel. Ah oui, non, d'accord. Non, moi, j'ai les micros, je crois. Hein. Okay. Je ne suis pas sûr. Faut que okay. Ouais,
c'est
sûrement.
Moi qui... Voilà. Ah, oui. Ok. Ça doit voyager. Est-ce que ça a un impact environnemental, votre histoire?
Alors, écoute, il y a des premières études qui commencent à sortir, qui sont assez intéressantes. On n'en a pas encore assez, donc nous on travaille sur un projet pour aller justement mesurer l'impact environnemental. Il y a Bosch notamment qui a été un des pionniers en Europe à déployer un réseau 5G dans ses usines, qui a mesuré que après avoir déployé un réseau 5G, il a baissé sa consommation énergétique de 30% et son stock de 40%.
Comment il le justifie ?
Alors, comment il le justifie ? En fait, on le sait ou on le sait pas, mais beaucoup de machines marchent avec de l'air comprimé.
Ouais.
Et si tu as un problème sur ta machine, notamment d'énergie ou autre, ton air comprimé va pousser, et en fait, avec des résultats médiocres. Donc, tu vas consommer de l'énergie, mais pour rien. Donc, le réseau 5G, une fois de plus, tu vois, bien connecté avec des capteurs, etc., va être à même de te remonter une information en temps réel, où tu vas savoir beaucoup plus rapidement, tiens, il y a un problème sur telle machine, il faut qu'on le règle, et du coup, je vais améliorer ma performance énergétique. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a compris essentiellement, et puis après, je pense que c'est cette histoire de pilotage hyper fin.
Te fait gagner en performance.
Tu gagnes en performance, tu gagnes en précision de ce que tu fais, t'évites les erreurs, t'automatises tout un tas de trucs qui fait que tu gagnes en énergie. Après, l'autre truc moi qui me semble intéressant, je sais pas comment ça va impacter les choses, mais quand tu déploies un réseau 5G à l'intérieur d'un bâtiment, il te faut 5 fois moins de bornes 5G que de bornes Wi-Fi, qu'il te faudrait de bornes Wi-Fi. Donc ça veut dire quand même moins de matériel, moins de câblage, tu vois. Et donc, tu as quand même un impact environnemental.
J'allais justement aller là-dessus.
Environnemental.
Tes bornes 5G, il y a quoi dedans ? C'est environnementalement parlant, c'est hyper compliqué ou ça va ? T'as une puce Nvidia et...
J'en sais rien. J'ai jamais ouvert.
T'as bien Nvidia, non ?
Non, je sais pas si c'est une puce
Nvidia. J'allais dire, j'ai pas de part dans Nvidia.
Non, mais une balle pas.
Alors, c'est...
Voilà. Alors, achetez Nvidia, c'est tout ce que je dis.
Non, t'as des puces, les grands fournisseurs de chips d'antennes, c'est Xilinx, AMD, voilà, Nvidia. Alors ils sont dedans, mais je sais pas si, ouais, je saurais pas trop te dire. Moi, je
les cartes, etc.
Ouais, ça m'a pas l'air d'être super compliqué. Et en fait, les nouveaux standards. Alors il y a un standard qui s'appelle Open RAN. Ça, c'est vraiment du barbare pour nos auditeurs. Qui en fait a une tendance à virtualiser le réseau et à standardiser les interfaces. Donc ça permet d'éclater la partie radio et d'utiliser du hardware qui est de plus en plus bête, en gros. Donc interchangeable, donc moins cher. Donc on met de plus en plus d'intelligence dans le software, de moins en moins d'intelligence dans le hard.
Ce qui te permet de faire des mises à jour,
ouais,
et d'avoir une plus grande longévité.
Et puis c'est flexible, et puis tu peux interchanger, tu peux utiliser plein de fournisseurs de hard, donc les mettre en concurrence, donc avoir plus de volume, tu vois, et baisser le coût du réseau.
Ok, donc en fait, ouais, t'as pas tant que ça d'impact environnemental.
Écoute, là, franchement, sur l'aspect hard, je saurais pas te dire, mais pour moi...
Et après, les ondes, de toute façon, ça va pas...
Les ondes, elles sont là. Hein,
non, les ondes, ouais. C'est pas c'est pas les ondes qui sont le problème, mais c'est plutôt la manière dont on s'est envoyé.
Il y a des normes qui nous protègent, c'est-à-dire que avec le Wi-Fi qui, lui, n'est pas... est complètement libre dans son usage, tu as une puissance maximum. Okay. En 5G, tu as différents niveaux de puissance. Nous, on a des antennes qui vont jusqu'à 20 watts. 20 watts, tu peux avoir une portée à l'extérieur d'un bâtiment à plusieurs kilomètres. Mais ça intervient avec des normes qui sont contrôlées, qui fait que tu vas pas mettre une grosse antenne comme ça à 2 mètres de hauteur à côté d'ouvriers, quoi. Donc nous, tout ça, c'est vraiment hyper réglementé.
Et vous, c'est vrai que juste pour faire la parenthèse sur l'impact carbone de la 5G, ce ne sera pas tellement dans l'utilisation en tant que telle, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ce que j'ai entendu dire au moment de la production pour créer en tout cas les systèmes plutôt grand public qui seraient chargés de distribuer ça en masse, et ensuite le côté énergétique, de se dire on va devoir pomper des ressources énergétiques fortes pour pouvoir alimenter un large territoire. Je ne sais pas si j'ai trop de bêtises, mais il me semble que c'est un peu plus ça
Ouais, je
sais. Ça concerne peut-être pas trop votre.
Ça concerne pas notre activité.
Credo.
Maintenant, bah oui, à chaque fois que tu déploies une nouvelle techno, tu déploies de la puissance de calcul, donc des serveurs, des data centers.
Là, on monte en grade.
Ouais, ouais.
Bah, oui. Là serait peut-être le.
Oui.
Après, j'avoue que je suis loin d'être spécialiste du sujet, donc il faudrait creuser avec des experts.
Mais moi, ce qui me semble intéressant ou intelligent, c'est finalement d'utiliser au mieux les fréquences disponibles et de mélanger. En fait, les technos qui existent pour finalement minimiser le hardware, minimiser la puissance de calcul en fonction des usages, en fonction des endroits, à l'intérieur, à l'extérieur, pour les entreprises,
devenir
pour les
plus
particuliers.
Sobre.
Bon, ce qui n'est pas évident. Hein.
C'est clair. Et à ce sujet-là, est-ce qu'il y a qu'est-ce que dit la réglementation justement ? Est-ce que on a le droit de mettre un réseau où on veut, c'est-à-dire j'arrive avec ma boîte, là je mets un réseau 5G là et je m'en fous un peu de ce qui se passe à côté.
Non.
Ça se passe pas comme ça.
Non, ça se passe pas comme ça. Ouais, c'est vraiment réglementé, c'est-à-dire que un, tu demandes une fréquence à l'ARCEP et deux, nous on doit demander une autorisation à l'ANSSI aussi. Alors c'est
l'Agence nationale des de sécurité des services d'information.
Voilà.
Je dis pas de bêtises.
Mais oui.
Et eux, ils vont vérifier donc les aspects cybersécurité. Voilà, donc tu peux pas faire ce que tu veux. C'est vraiment très réglementé. C'est cartographié. Donc ça veut dire que les services de l'État peuvent contrôler à n'importe quel moment l'installation que tu as faite. Et de toute façon, ils nous demandent exactement ce qu'on va déployer.
Et pourquoi cette demande, cette réglementation ? Pourquoi une telle précaution sur ce réseau-ci ?
Bah, deux raisons. La première, c'est que tu vas utiliser une fréquence qui est un asset de l'État, qui appartient à l'État. Et deuxièmement, pour éviter les interférences entre les différents réseaux. Donc, éviter les interférences avec les réseaux des opérateurs, mais ça peut être aussi des interférences avec des réseaux utilisés par les armées, les aéroports. On a entendu hein, à un moment les Américains les aéroports américains qui se plaignaient que la 5G venait brouiller les avions, etc.
En fait, les ondes sont juste à côté.
Bah, elles sont à côté. Et puis, en fait, je pense que les opérateurs américains, ils ont fait un peu n'importe quoi.
Ouais, puis même plus il y en a, plus c'est compliqué après de démêler si ça chevauche en termes de. Pour faire une analogie à nos auditeurs, en fait, tu me diras si je me trompe, mais c'est un peu comme dire j'ai besoin de faire une place de parking, je vais pas aller me foutre au milieu de l'autoroute, là où il y a déjà du passage et un peu n'importe où sur l'autoroute, quoi, au milieu du chemin.
Bah, c'est ça, en fait, en gros, faut voir ça comme un millefeuille. Et chaque tranche là, elle est dédiée à un type de service et on fait attention à ce que il y ait suffisamment de d'espace entre chaque feuille de ce millefeuille.
Ça donne faim.
Du coup, j'ai perdu ma question que je voulais.
Si tu veux, j'en ai une petite.
Vas-y.
On parle beaucoup de résilience numérique. On l'a évoqué, hein, justement, que ce soit en termes de catastrophes naturelles, donc on a déjà commencé à en parler, guerre, etc. Donc, cette nécessité d'avoir des systèmes d'information qui soient capables, à tout moment, malgré les conséquences et les causes externes, d'être tenus debout. Justement, est-ce que c'est aussi, vous, un argument que vous mettez en avant à la fois auprès des entreprises, mais justement des gouvernements ? Se dire, on a une solution peut-être pour vous permettre de... Enfin, à quel point ça rentre dans le débat ?
Écoute, il y a une prise de conscience de la part des États. Alors, en France, ça se fait via le plan France 2030.
Exactement.
Parce que dans le plan France 2030, tu as 5 verticales. Et une des verticales, c'est la 5G industrielle. Parce que le gouvernement a compris qu'il y avait un enjeu de réindustrialisation et d'efficacité, de compétitivité pour les entreprises françaises à déployer la 5G. Il y a une question forte de souveraineté sur le sujet de télécom. Donc ça, c'est vraiment indéniable. C'est-à-dire que malheureusement, nous, on avait un champion qui s'appelait Alcatel-Lucent, qui a été mangé par Nokia.
C'est vrai.
Nokia, alors ils ont beau avoir plein de personnes et d'usines en France, ça reste quand même une boîte finlandaise. Alors, ils sont européens. Mais il y a un souhait de retrouver une souveraineté dans les télécoms parce que les télécoms c'est vraiment la clé de c'est hyper stratégique quoi. Donc j'ai appris là pas plus tard qu'il y a 2 semaines qu'aux États-Unis il y a des budgets fédéraux pour aller retirer des équipements chinois et les remplacer par des équipements américains ou de pays alliés.
Ça m'étonne tellement pas.
Donc, ça vous montre un peu le côté hypersensible des télécoms. Donc, les pouvoirs publics, je pense qu'ils ont bien compris l'enjeu qu'il y avait. Et il n'y a pas qu'en France. Hein. Au Royaume-Uni, ils ont la même chose. En Allemagne, ils ont la même chose. Aux États-Unis, ils ont la même chose. Donc, franchement, il y a quelque chose là qui est clé. Au niveau des entreprises, c'est un peu plus lent. Quoi, hein. On est plus sur... ce côté, il faut que ça touche l'économie, hein, faut que ça touche les sous, quoi. Hein, sinon,
puis besoin de vulgarisation. Ouais. Accéder aux données qui transitent sur les 5G de tes clients?
Non, pas du tout.
Non,
absolument pas.
Mais même techniquement parlant, tu pourrais pas?
Techniquement parlant, oui, on peut tout faire.
C'est un boulot de cyberpirate, quoi.
Ouais, c'est ça.
Globalement.
Mais si tu as créé le réseau, être bien pirate, sur pas, que créé.
Pas forcément. T'as créé la technologie, mais c'est pas toi qui... Enfin, tu le déploies, mais t'as pas le contrôle.
Si tu veux, les architectures qu'on met en place, elles font en sorte que les données ne sortent pas de l'entreprise. Tu vois ? Donc, c'est quand même relativement compliqué. Donc après, oui, c'est un boulot...
C'est comme un taf de serrurier, quoi. Tu vas mettre une nouvelle serrure sur une porte, mais t'es pas censé avoir le double de la clé, quoi.
Oui, mais t'as...
Bon, même si toi qui l'as fait, tu vois. Mais...
T'as quand même le modèle...
Oui.
Ouais, t'as les plans de la serrure. Après, tu sais qu'il faut appuyer à droite, puis à gauche. Ça va, quoi.
Oula, il crochette.
Non, je sais pas crocheter. Je sais pas faire ça.
Non, mais c'est une question de confiance. Hein, donc, ouais. On est dans un business. Si on veut, avoir un business florissant, il faut construire de la confiance avec nos clients. Et puis, de toute façon, on a de plus en plus de références qui sont là pour montrer qu'on est légitime, solide, robuste et qu'on va protéger les assets de nos clients.
Mm-hmm.
Si Christelle Attman et son équipe vous fait confiance, normalement, ça va. Bon, on va pour aller un peu sur les implications sociétales de cette techno et pour essayer de comprendre, je ne sais pas si là-dessus tu as de l'info ou pas, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a déployé les antennes 5G en France et que tout le monde a dit « on va nous mettre des puces dans le corps et c'est hyper dangereux pour la santé ». Bon, on nous l'avait déjà fait avec la 4G, c'est mort dans l'œuf. On l'a fait avec la 5G, c'est mort dans l'œuf. Ça sort d'où cette histoire?
Alors franchement, moi j'ai pas de données ou d'informations d'insider, mais on est sur ce marché. Moi, ce que je vois, c'est que... c'est plutôt une évolution sociétale qui fait que aujourd'hui toutes les opinions sont possibles, y compris les opinions les plus négationnistes. Il y a quand même un effet amplificateur des réseaux sociaux qui font que et puis polarisant, hein, des réseaux sociaux qui fait que bah, si on croit à quelque chose, malheureusement, on va être abreuvé de cette thèse via nos réseaux sociaux, hein, puisque les réseaux sociaux, leur objectif, c'est de faire en sorte que
tu restes
le plus longtemps possible. Donc, on va te mettre que des trucs que tu aimes, voilà, qui vont dans ton sens. Donc, du coup, les gens n'écoutent plus Il n'y a plus de débat, la contradiction. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. C'est vraiment une évolution sociétale et la manière dont les gens s'informent qui fait qu'on arrive à des prises de position qui sont complètement ubuesques comme celle-là, parce que franchement, c'est complètement débile.
Il y a eu un hack sur la communication.
Il y a eu un acte.
Il y a eu un hack, un problème sur la communication.
Non.
Non, non. Parce que je sais pas, pour qu'on en vienne à dire que la 5G va tous nous connecter, c'est que...
Non, c'est mais tu sais, moi je pense qu'il y a eu... en fait, on en revient au problème de est-ce que la 5G apporte quelque chose pour vous et moi?
Ouais.
La réalité, c'est non. Mais pourtant, les opérateurs qui, eux, à qui on a forcé d'acheter des licences, des fréquences super chères, ils ont tout fait pour nous envoyer vers la 5G, nous dire que c'était formidable, etc. etc.
Sans avoir d'argument.
C'est-à-dire que derrière, la réalité, c'est que ça ne sert à rien
pour Madame Michu.
Pour Madame Michu.
Ouais.
Donc, du coup, les gens se disent, mais pourquoi ils nous poussent ça? Je ne comprends pas, la 4G, c'est très bien.
C'est vrai que oui, à moins de vouloir télécharger son film trois fois plus vite, ce qui n'a zéro intérêt.
Voilà, et on en revient à cette posture, parce que malgré tout, les gens, ils écoutent les opérateurs, ils sont parmi les plus gros annonceurs hein, dans les médias. Donc les gens se disent, mais pourquoi ils veulent me pousser ça? Je comprends pas, ils me parlent d'aller plus vite, de machin, mais enfin vraiment, à quoi ça sert? Et en fait, ça ne sert à rien. Et alors, il y a eu un double problème, c'est qu'en plus, la techno au niveau des opérateurs 5G n'était pas prête. Donc, alors là, je vais rentrer dans un petit truc que les gens ne savent pas. C'est qu'en fait, les réseaux, hein, ils sont constitués de deux morceaux. Il y a ce qu'on appelle le cœur de réseau et puis la partie radio. Eh bien, au départ, il n'y a qu'une partie du réseau qui était upgradée en 5G. L'autre partie était toujours en 4G. Donc, en fait, les performances étaient bridées et c'était un réseau un peu hybride qui fait que, de toute façon, ça ne servait vraiment à rien, quoi. Et on n'était même pas encore dans la vraie promesse de la 5G avec les performances dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, tout ça fait que, moi, je pense que quand on raconte des bobards aux gens ou quand on camoufle une réalité qui n'est pas tout à fait...
Pour des aspects économiques.
Voilà, pour des aspects économiques.
Ça paye cher.
Il y a un retour de boomerang direct. Ouais, quoi, hein, et je pense que
même une perte de confiance des gens par rapport aux technologies, qui est assez dommage.
Ouais,
donc c'est de lutter dans le sens inverse. Donc,
ouais, tout à fait. Mais en fait, mauvaise techno, mauvaise cible. La 5G, comme je disais tout à l'heure, ça a été fait pour les entreprises. Donc en fait, le message qu'il aurait fallu pousser, c'est voilà, la 5G arrive pour les entreprises, pour faire ci, pour faire ça. Et là, les gens auraient écouté.
Quand je repense un peu à tout ce qu'on s'est dit, puisqu'on arrive sur la fin de cet épisode, je me dis, la 5G, c'est peut-être la nouvelle révolution industrielle où l'humain va sans doute beaucoup moins travailler, être beaucoup plus remplacé par la machine, une machine qui sera de plus en plus autonome, et l'humain sera derrière, beaucoup plus sur développer du software, produire aussi le hardware, mais le produire, le déployer et le passer à échelle après. Est-ce que ça, tu vois les choses aller un peu dans ce sens-ci, ou tu vois les choses un peu différemment ?
Ouais, moi, ce que je vois qui est super intéressant dans le monde de l'industrie, c'est qu'en fait, je pense que les gens ont encore une image de l'industrie avec de l'huile, des mains sales et des clés à molette. Or, aujourd'hui, l'industrie, c'est de la robotique, de l'intelligence artificielle et de la 5G. Donc, en fait, les gens qui manipulent aujourd'hui ces technos au sein des industries de pointe sont vraiment à la pointe de l'innovation. Donc, il y a une transformation des métiers qui est en marche, qui, à mon avis, est super intéressante et qui transforme complètement ces métiers.
C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller jeter un coup d'œil dans une usine quand on est du grand public.
Mais non, et donc, moi, je vous avoue que moi non plus, hein, mais depuis qu'on a créé Firecell, donc je me balade chez Renault, chez Airbus, chez ArcelorMittal, etc. Mais c'est dingue de voir la révolution qui se passe à l'intérieur de ces environnements, parce que en fait toutes ces entreprises sont en train de s'adapter, de se digitaliser et de transformer leur métier. Donc la dernière usine que j'ai visitée, c'est l'usine Renault de Flins, qui s'appelle Remanufacturing, qui en fait est aujourd'hui dédié à recyclage de toutes les pièces détachées d'une voiture pour les nettoyer les remettre dans un cycle de fabrication. Et c'est quand même un truc de fou, hein. Donc l'usine, elle est gigantesque, et donc ils sont en train de monter en puissance avec les moteurs thermiques. Et bien entendu, avec les batteries. Donc, il y a un pan d'industrie qui n'existait pas et des métiers qui n'existaient pas. Et donc, le pari de Renault que moi, j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est de dire, dans cette usine, il y a 2000 personnes. On ne va pas se séparer d'une seule personne et chacune de ces 2000 personnes va demain faire un métier qu'elle ne connaissait pas il y a quelques mois.
Et du coup, on va les former.
On va les former entièrement un nouveau métier qui sera un métier d'avenir.
C'est vrai que Renault est en pleine mutation. Hein. Quand tu vois là ce qu'ils sont en train de faire, ce sur quoi ils travaillent et tout, c'est une vraie mutation sur un modèle industriel complètement nouveau et des produits complètement nouveaux. C'est très impressionnant.
Ouais. Ils mettent leur idée, des avatars dans les voitures.
D'être le Tesla européen, voire faire ce que Tesla a fait il y a 5 ans, c'est-à-dire défoncer le game et dépasser Tesla, parce qu'aujourd'hui, Tesla, il les considère dans le game. Donc, hyper, hyper intéressant. Est-ce que du coup, tu penses que ça va tuer beaucoup d'entreprises, la 5G ? Ceux qui ne vont pas signer ?
Alors, je ne pense pas que ça va les tuer. On ne peut pas dire qu'il y a
Moi, je suis très schumpeterien. Si tu n'es pas compétitif, tu meurs, quoi.
Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais. Absolument. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe? C'est soit tu l'utilises et tu es plus compétitif que les autres, soit tu l'utilises pas et tu es derrière. Donc, la 5G va avoir le même effet. C'est-à-dire que tu vas gagner en rapidité, en flexibilité, en compétitivité, et les autres qui sont derrière, qui rament encore avec, avec leurs petits bras, bah, effectivement, ils vont se déclasser.
Tu penses que c'est un sujet qui est sous-abordé justement, tout le monde parle d'intelligence artificielle parce que c'est vrai que ça parle aux gens, il y a des applications directes au quotidien, mais là on voit bien que tu l'as mentionné avec l'industrie, c'est beaucoup d'applications mais indirectes. Je pense qu'on n'en parle pas assez en fait concrètement.
Ouais, je pense qu'on n'en parle pas.
Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'entends vraiment parler de 5G.
On n'en parle pas parce que finalement c'est quelque chose d'un peu inconnu, d'un peu obscur, qui ne s'est pas beaucoup ouvert au grand public.
On ne mesure peut-être pas encore les applications.
Voilà, mais... on ne mesure pas les applications. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement la survie des entreprises. C'est-à-dire que soit elles innovent, soit elles se digitalisent, soit elles meurent.
J'avais deux dernières petites questions, peut-être avant qu'on se dirige vers la fin. Justement, tu as partagé un peu ta vision de ce que pouvait être l'industrie avec la 5G privée. Est-ce que toi, il y a une application en particulier qui t'enthousiasme particulièrement? Peut-être qu'on en a déjà parlé même, mais dans les applications indirectes pour le consommateur final.
Pour le consommateur final, je sais pas.
Indirect pour le consommateur final.
Ouais.
Bah... un truc qu'on s'en rend pas compte.
Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est l'explosion des robots automatiques. Donc, ce qu'on appelle les AGV. AGV, en anglais, c'est Automated Guided Vehicles. Donc, c'est des petits robots qui se baladent dans les entrepôts et qui vont faire des tâches manuelles de manière vraiment super efficace et beaucoup plus rapide. En fait, on ne le voit pas. Hein. Donc, on a vu quelques images des entrepôts Amazon où il y a plein de trucs automatiques qui se passent là-dedans. Et en fait, qui évitent énormément d'erreurs. C'est surtout ça, hein, c'est que, imaginez dans les entrepôts, vous avez des centaines de milliers de paquets pour aller trouver le bon truc au bon endroit, etc. Bah, effectivement, la machine et l'intelligence artificielle sont mieux placées que nous pour le faire. J'ai eu d'ailleurs des discussions avec une entreprise de logistique aux États-Unis qui me disait que eux, ils avaient encore tout manuel et que c'était l'enfer. Il y a des erreurs partout, d'aiguillage, de produits mal packagés, etc. Donc ça, je pense qu'on ne voit pas. Mais l'efficacité dans la logistique que l'on a aujourd'hui et qui a été démarrée par Amazon, c'est-à-dire qu'Amazon a créé franchement un niveau de service et un niveau de qualité vraiment au-dessus des autres, est en train de se généraliser. Et ça veut dire que demain, y aura moins d'erreurs. Les paquets arriveront plus vite et de manière plus sécurisée. Quoi. Donc pour moi, c'est ça l'impact sur Monsieur Tout-le-Monde.
Est-ce que tu vois une grosse différence entre la France, les US, le reste de l'Europe?
Ouais, on est lent. Ouais,
c'est pour ça que vous êtes aux US plus qu'en France?
Ouais.
C'est ce que j'allais te demander.
C'est fou, hein, mais en fait, c'est culturel. C'est-à-dire que la prise de décision et la prise de risque n'est pas la même. En France, il y a vraiment, on consulte les gens, on va faire un pilote, on va essayer plein de trucs dans tous les sens. Enfin, on aime bien tordre le truc dans tous les sens pour que ce soit super robuste avant d'y aller. Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de prise de risque, même si elle est toujours maîtrisée. Hein. Mais ils vont plus vite dans leurs décisions et ils prennent des décisions qui sont plus risquées. Plus en amont. Et donc, du coup, ils vont plus vite dans le déploiement de ces nouvelles technos. Donc, moi, je vois aujourd'hui que le marché américain est plus dynamique que le marché français. Vous avez dû entendre parler de cette mission 5G. Hein. Le gouvernement a mandaté donc un groupe de travail qui s'appelle la mission 5G pour essayer d'évangéliser les entreprises et pour leur faire comprendre qu'il y avait quelque chose qu'il fallait absolument qu'elles embrassent. Pour ne pas perdre de vitesse par rapport aux concurrents allemands, anglais ou américains. Donc ouais, il y a vraiment...
Sur la compétition 5G, on n'est pas en pole position, quoi.
Non. Okay. Dans l'implémentation, si tu veux.
Oui, dans l'implémentation. Voilà, ouais, la technologie.
Dans le déploiement. Dans la techno, franchement, on a des belles boîtes, on a des super ingénieurs. Hein, on est très bien placés parce que justement, on a tout cet historique. On a de très bonnes écoles d'ingénieurs. Donc du coup, on a vraiment une expertise ici. Les Américains essayent de la répliquer.
Vous avez réfléchi à mettre FireCell aux US?
Bien sûr, ça fait partie de nos plans.
C'est prévu.
C'est prévu. Mais
vous ouvrez une antenne ou vous mettez le siège social?
Non, on essaiera d'ouvrir une antenne, mais il faut lever des fonds. Hein. En fait, les US, c'est méga cher.
Ouais.
C'est tellement grand aussi qu'on ne peut pas y aller juste avec, en saupoudrant deux, trois personnes.
Prendre un cabinet et tout pour s'y plugger et tout.
Ouais, c'est ça.
Et tu t'es pas dit le Canada ? Et j'utilise le Canada comme relais US-France, France-US ?
Non, pas spécialement. Okay. Moi, pour nous, il faut aller direct aux US.
Okay. Tu préfères, tu préfères vendre aux US ? Ouais, tu préfères être sales aux US ou sales en France ? C'est toi qui vends entre autres le produit.
Sales aux US, c'est vrai que c'est assez excitant. En fait, il y a un truc.
Moi, je préfère vendre, tu vois, des Américains qu'à des Français.
Ouais, mmh. non, mais c'est
assez excitant. J'ai l'impression que c'est le oui ou non, quoi. C'est ça.
Ça va plus vite. Les mecs. Les mecs, ils tombent pas autour du pot. C'est-à-dire que tu plais pas. Et puis, si derrière, tu réponds à ta promesse et tu exécutes comme il faut, mais t'es le roi du monde. Parce qu'en plus, c'est pas la même échelle. C'est-à-dire que la moindre boîte, elle fait pas 10 milliards, elle fait 100 milliards là-bas. Enfin, c'est colossal, quoi.
Ouais. Ah, et puis, les Français veulent un truc sur mesure. Ou en tout cas, ils veulent que tu leur vendes un truc sur mesure. Les US, ils veulent un produit qui fonctionne. S'il fonctionne,
c'est ça.
On y va.
Ouais, c'est ça. Non, c'est assez agréable. Franchement, la culture business est assez agréable. Elle est dure, hein. Faut être au rendez-vous.
Elle est exigeante.
Ouais, elle est exigeante, ouais.
Je trouve qu'elle est pas dure. Elle est exigeante.
Ouais, c'est ça.
Parce que dur, ça fait un peu peur.
Tu vois, encore plus juste pour nous, parce que justement, il faut qu'on se mette dans ce moule, quoi, c'est ça, du fait là, de par notre culture qui est un peu différente.
Écoute, ouais, moi, je pense que ça dépend des entreprises. Tu vois, nous, quand tu fais une startup, tu peux créer la culture que tu veux. Je vous donne un exemple. Chez Firecell, on a un truc incroyable. Comme c'est difficile de recruter des ingénieurs télécom, eh ben, on les recrute à l'étranger et on les fait venir à Nice.
À Nice.
Ouais, donc sympa. Sur 25, on a 12 nationalités.
Ok.
Donc c'est un truc de fou. Et du coup, ça crée une culture qui est vachement ouverte, où les gens n'ont pas peur. Voilà. Donc, et puis, il n'y a pas un moule français. Pas du tout. On est.
Les télécoms, ça se passe beaucoup à Antipolis, non ? C'est ça, autour de Nice. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de boîtes.
Tu aller à Sofia ou pas ?
Je passais pas loin, mais non, je suis m'arrêté.
Faudrait aller à Sofia.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de boîtes.
Faut y aller. Ouais.
C'est très deep tech, c'est très truc de rupture, industrie.
On se marre quoi.
Des robots, des exosquelettes.
Non, il y a des chouettes
industries. La médecine,
ouais.
Un peu de pharma.
Ouais.
Non, c'est cool.
Nos régions du talent.
C'est ça.
Clairement.
Je pense qu'on a fait un bon tour là sur la 5G. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais aimé qu'on aborde ou pas ?
Wow, on a abordé plein de choses. Hein.
Même aller aborder les US, attends.
Ouais, ouais. Non, franchement, je pense qu'on a tout abordé, hein, presque. Non, le dernier truc, donc, nous, on est assez fiers d'avoir été choisis par le programme French Tech 2030. Ouais.
Et on est accompagné par
en fait, un
par
référent.
L'équipe de Bruno Bonnel, etc., du plan France 2030 ou pas ?
Alors, c'est pas Bruno Bonnel, c'est l'équipe de.
T'es dans le plan France 2030 ou t'es dans le programme de la FrenTech France 2030 ?
Alors, les deux.
Ok.
Oh, bah c'est parfait.
Les deux, en général. En fait, on a gagné plusieurs projets dans le cadre de France 2030. Donc des projets de développement R&D collaboratif, dont celui que j'ai cité avec Stellantis. Mais on a aussi été nommé, donc il y a 10 jours là, pendant VivaTech, dans le programme French Tech 2030. Donc les 125 startups qui sont sur des verticales stratégiques pour l'État, pour la souveraineté et pour le développement de l'industrie en France.
Ouais, ok. Ok, donc programme créé par la French Tech,
ouais.
Et du coup les équipes de Clara, qu'on salue, et le programme France 2030 porté par le gouvernement, là c'est une bourse de je ne sais plus combien de millions.
C'est 54 milliards d'euros.
Milliards, voilà, ouais. Porté par Bruno Bonnel, et là eux ils financent, c'est juste on vous donne du cash, et ils vous accompagnent aussi un petit peu ou pas ?
Non, c'est vraiment du financement. Ouais, l'accompagnement, c'est dans le cadre de French Tech 2030, parce que ce qui est assez chouette et original, c'est qu'ils vont vraiment travailler sur nos enjeux à nous, individuels. Et puis, c'est un accès direct au service de l'État. Enfin, franchement, nous, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des opportunités.
Pour les US, c'est hyper fort comme temps,
ouais,
French Tech. Hein.
Ouais, franchement, c'est top.
Franchement, c'est cool. Pour conclure cet épisode, souvent, à la fin de l'épisode, on aime bien demander à nos invités s'ils n'ont pas des... Parce qu'en fait, tous nos sujets sont très sociétales. les sociétaux. On les aborde jamais comme ça, mais ils le sont de fait. Est-ce que toi, il y a des grandes questions philosophiques, sociétales, politiques que tu te poses, auxquelles t'as pas forcément de réponse, mais qui pourraient un peu ouvrir tout ça, ouvrir cette discussion.
Qui n'ont rien à voir avec la 5G ?
On est potentiellement rien à voir.
Ouais.
Il y en a qui nous parlent de l'éducation de leurs enfants.
Puis c'est tout aussi important, mais en ce moment, ouais, différent. Ouais.
Écoute, moi, je suis un peu déçu par la réaction des politiques en ce moment face aux émeutes là, qui ont eu lieu cette dernière semaine, là, ces 10 derniers jours. Parce que pour moi, enfin, il y a une espèce d'aveuglement où on regarde juste ce qui se passe là. Ok, les mecs cassent. Ok, d'accord, très bien, fine, ils cassent. Mais personne pose la question, ouvertement, pourquoi ils cassent ? Et pour moi, c'est une espèce de suite d'échecs des politiques qui ont été mises en place, mais depuis, j'en sais rien, c'est 30 ans, 50 ans, à venir intégrer ces personnes-là, à leur donner du boulot, à leur faire vivre dans des environnements où ils ne sont pas juste en ghetto, ouais, parce que c'est quand même ça qui se passe, et à vivre dans la pauvreté en ghetto. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai vécu à Singapour pendant 3 ans. Le gouvernement singapourien, il faisait un truc assez malin. C'est que il avait des quotas. Alors, chez nous, c'est impossible. Hein. Il avait des quotas par
nationalité
ou race,
ouais,
quartier par quartier. Donc, okay, du coup, quand tu vivais dans un immeuble, tu avais X% d'Indiens, X% de Chinois, X% de Malais.
C'était vraiment suivi à la craie, quoi.
Ah ouais, non, vraiment. Ouais. Ouais. Mais le résultat,
c'est... Ce qui fait qu'il y a une intégration de l'immigration.
Ben voilà, le résultat,
et
c'est
on
quoi
les marque pas,
Le résultat, c'est quoi? C'est que t'as pas peur de ton voisin. Ton voisin, c'est pas le même, il a pas la même religion, il a pas la même culture, il a pas la même nourriture, etc. Mais du coup, c'est ton voisin. Tu le connais, tu discutes avec lui, tu lui dis bonjour le matin.
Vous faites des bouffes et vous découvrez des
nouvelles. Ouais, la fête des voisins, sympa, quoi.
T'imagines la fête des voisins?
Ouais.
Bon, mais tu vois, et nous, on a fait tout l'inverse. On a parqué les mecs dans des trucs moches, dans des banlieues avec en plus des transports pas évidents, où ils sont ensemble, sans job. Enfin, faut pas s'étonner que ça explose, quoi. Enfin, qui a envie de ça? Personne. Et d'autant plus que cette immigration, c'est des gens qu'on a fait venir après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire le pays et qui ont servi l'économie du pays. Donc pour moi, il y a une espèce d'échec politique là qui est vraiment malsain et que les mecs n'arrivent pas à reconnaître. Alors je suis sûr que les solutions sont compliquées à mettre en place, mais c'est pas en foutant plus de police. Et,
en fait, il y a des solutions qui sont mises en place depuis Sarkozy, qui sont de renouveler les quartiers, de mettre vraiment du budget là-dedans, d'arrêter de mettre comment ils appellent ça, des logements avec le prix plafonné pour éviter des logements trop chers un peu de partout, et de mettre de la mixité sociale le plus possible dans tous les coins de la France. Donc ça fonctionne, mais c'est une question de discours, et c'est vrai que le discours il est pas ouf, quoi.
Allez,
parce qu'il faut reconnaître un échec, et qu'en France va reconnaître un échec.
Surtout ouais, quand tu fais de la politique.
Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on ne sait pas reconnaître les échecs. Enfin, c'est vraiment la honte, quoi. T'as eu un échec, t'es une merde.
C'est aussi une différence de culture par rapport aux États-Unis.
Ah ouais.
Énorme.
Mais pas que par rapport aux États-Unis,
bien
par
sûr,
rapport à tous les pays où il y a eu de la galère à un moment.
Ouais. Bien sûr, mais.
Et tu vois, ça, c'est un truc que tu apprends quand tu montes une start-up. Moi, c'est la 3e start-up que je monte. Tu ne construis ton succès que sur tes échecs passés. Ouais. C'est-à-dire que ce sont tes échecs, tes difficultés qui font que tu comprends, ok, que la prochaine fois je ferai mieux et qu'il faut que je fasse de telle et telle manière. Et c'est en les reconnaissant et en les appréhendant que tu y arrives. Il faudrait que tout le monde arrive à faire ça un peu plus, quoi. Hein.
Bah, je trouve que c'est un très très bon mot de la fin.
Bah, complètement.
En plus, conseil directement actionnable. Écoute, merci beaucoup Olivier pour ton temps. Je crois que tu as un call dans 4 minutes. Du coup, on est parfait niveau timing. Merci à Paul pour cette co-animation.
Merci à l'ouverture.
Un épisode dispo chaque semaine. Une newsletter dispo tous les dimanches. J'espère que tu la lis, Olivier.
Bah, bien sûr.
Attends, je la poste tous les dimanches à 6h du mat pour suivre les actu tech à travers le monde. Franchement, c'est
si tu l'avais pas à 6h du mat, ça marche pas.
À 6h05, je suis dessus.
Bon, on attend le screen. À bientôt,
vite.
Merci Olivier.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.